Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié « Redécouvrir les physiocrates » chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de mars. Comment relancer, ressusciter la productivité? Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor, secrétaire général de Croissance Plus et membre du comité stratégique des écoles Espérance Banlieue. Gilles m'écrit, toujours marrant de voir des gens, il parle de nous, hein, qui collectionnent les berlutis et qui jugent les achats faits par des pauvres juste pour se vêtir. Il y a également cette réaction sur les costumes de Laurent. Avec des costumes comme ça, vous pourriez jouer dans les tontons flingueurs, m'écrit-on.
Je prends ça pour un compliment.
Voilà. Alors, il y a Ibrahim qui écrit, voilà enfin un secteur qui ne connaît pas le problème de productivité, c'est la législation française.
Productivité, si, production non, mais productivité.
En tout cas, créativité.
C'est une question pour vous, Jean-Marc. Jean-Marc Daniel, c'est Pascalou qui dit, il dit que les taux d'utilisation des capacités baissent, mais qu'il faut baisser les taux pour investir. N'est-ce pas contradictoire, demande cet auditeur.
Non, parce que il y a des effets qui sont des effets d'accélération sur l'investissement, c'est-à-dire que les investissements nourrissent les investissements. Et donc, effectivement, il y a des secteurs qui ne sont pas appelés à investir parce que leur taux d'utilisation des capacités de production ne sont pas au rendez-vous, mais il y a des investissements de productivité ne seront pas là, mais il y a les investissements d'innovation qui, eux, doivent être favorisés.
Jean-Marc Vittori, votre lecture de la livraison INSEE d'hier, qu'est-ce que vous en tirez? Moi, j'en tire comme enseignement que les 10 milliards, ça ne va pas suffire cette année et qu'effectivement, la baisse des taux, ça y urge un peu.
Non, le premier point, c'est ce que disait Laurent. Et d'ailleurs, il y a deux pages dans la note de conjoncture de l'INSEE qui sont consacrées à ça. C'est l'extraordinaire diversité des situations d'un secteur à l'autre. Et c'est le cas depuis 2020, hein, depuis le confinement, qui a tué les services et boosté la demande dans certains secteurs industriels. Ensuite, il s'est passé l'inverse. Aujourd'hui, on a une diversité des situations conjoncturelles d'un secteur à l'autre, comme on n'en a jamais eu historiquement. Et ça complique la lecture. C'est vrai que la construction entraîne toute une partie de l'économie vers le bas en ce moment. C'est vrai aussi qu'il y a des capacités de rebond qui sont encore énormes. L'aéronautique, hein, rappelait l'INSEE dans sa note, n'est pas encore revenu au niveau pré-crise. Et donc ça tire parce qu'il y a une demande très forte. Les carnets de commandes là sont pleins, non pas pour 6 mois ou 1 an, mais pour 10 ans. Et donc le but, c'est d'arriver à produire le plus vite possible et donc d'améliorer la capacité. Voilà, là, il n'y a pas le moindre doute.
C'est clair qu'il y a besoin de capacité.
Et dans le bâtiment, on a une situation exactement inverse. Donc ça complique la lecture d'ensemble. Mais ceci, et moi, je suis de plus en plus prudent face aux lectures d'ensemble depuis 4 ans à cause de cette
diversité. Prudent face aux lectures d'ensemble. Voilà.
Ceci dit, le deuxième point, c'est que la reprise, c'est le titre de la note, hein, la reprise se fait attendre. Et on voit bien qu'on est en train de repousser vers les trimestres suivants la reprise qui devait se passer dès le premier trimestre. Maintenant, ils nous disent que c'est le deuxième trimestre. Je pense que la prochaine fois, ils expliqueront que finalement, peut-être à l'été, une fois que la BCE aura peut-être commencé à baisser ses taux, ça repartira. Mais on est tout de même dans une situation de marasme de la production, hein, qui est depuis 18 mois sur une pente de 1%. J'avais regardé, ça n'est jamais arrivé depuis qu'on a des chiffres trimestriels. Hein, donc depuis l'après-guerre, ça n'est jamais arrivé qu'on ait 18 mois à 1% plus ou moins epsilon. Et donc ça traduit même une économie qui est particulièrement peu dynamique. Et effectivement, les espoirs de recettes budgétaires qui pourraient éviter des plans d'économie s'éloignent. Deuxième point essentiel, c'est vraiment ça. Très grande diversité et une situation qui est même pas joyeuse, même si dans certains secteurs, ça explose, comme le dit Laurent.
C'est une décision du Conseil d'État, Laurent Vronsky, qui est venu valider un avis du Conseil d'État, qui est venu valider un arrêt de la Cour de cassation, qui, cet arrêt lui-même, avait invalidé une décision du Conseil constitutionnel. Il s'agit de mettre le Code du travail en conformité avec la directive européenne de 2003, une charte européenne des droits fondamentaux qui est ensuite entrée en vigueur en 2009 et qui prévoit que l'on accorde des congés payés à un salarié qui est en arrêt pour une raison de maladie non professionnelle. Donc la décision d'hier indique qu'effectivement, maintenant, qu'on soit présent ou pas présent, on cumule des droits aux congés payés, qu'au maximum, les périodes de maladie permettront d'obtenir 4 semaines par an et non pas 5, car c'est la durée courante en Europe, que cette décision est rétroactive, mais que la rétroactivité est limitée. Elle est limitée à 3 ans pour un salarié qui a quitté l'entreprise, si il a quitté cette entreprise moins de 3 ans après la date d'entrée en vigueur de la mesure, et elle est limitée, cette rétroactivité, à 2 ans si le salarié est toujours en poste. Et enfin, les salariés ont jusqu'à 15 mois pour prendre ces arriérés de congés payés. Bon, visiblement, la sphère patronale est soulagée, Laurent Wronski. Vous connaissez le sujet. Comment vous accueillez cette décision du Conseil d'État ?
Oui, je connais le sujet parce que d'abord c'est un sujet qui n'est pas nouveau, vous l'avez souligné, hein, je veux dire qu'on l'a pas découvert en 2023. Hein. Par contre, il y a eu des rebondissements juridiques. Alors, il faut être conscient que c'est pas non plus un sujet nouveau parce que vous avez, comme chacun sait, des conventions collectives en France et que vous avez des conventions collectives qui déjà accordent des congés payés à des salariés qui sont en congé maladie non professionnel. Je veux dire, c'est pas un phénomène nouveau. Par contre, vous avez les conventions collectives qui ne les donnent pas. Bon, et donc c'est pour ces entreprises-là où, quand on a, je dirais, de la transposition de textes européens, puisque c'est ce dont il s'agit, avec des incertitudes très importantes, c'est-à-dire jusqu'à quand est-ce qu'on peut, en clair, toquer à la porte de son ex-entreprise pour réclamer des congés payés. Est-ce que c'est depuis 1 an, depuis 15 ans? Je veux dire que vous imaginez pour beaucoup d'entreprises, c'est non seulement, je dirais, un cauchemar administratif qui se prépare, mais également une note extrêmement salée. À un moment où, clairement, on ne peut pas dire que l'économie, au sens général, soit très florissante. On vient d'en parler pendant un quart d'heure. Donc, cette espèce d'incertitude juridico-économique...
Elle est levée, l'incertitude.
Voilà, elle est levée. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises qui appartiennent à des secteurs où, justement, il n'y avait pas de congés payés octroyés quand on était en congé maladie, je veux dire, font ouf parce que maintenant, c'est borné. Et c'est relativement bien borné parce que ça va éviter d'importer du conflit dans les entreprises avec des gens qui vont venir, qui étaient là il y a 10 ans et qui vont commencer, on va ressortir les feuilles de paie, et c'était calqué comme ci et comme ça, enfin c'est le cauchemar. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens font ouf.
Donc effectivement, le risque de rétroactivité, c'était 14 ans. Et là, il a été limité à 3 ans, même 2 ans si on est encore en poste. Donc oui, c'est plutôt...
Donc c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une mise en conformité avec le droit européen. Après, on est pour ou contre le droit européen, mais réaction là-dessus, sur le congé payé
Non, juste sur la forme, c'est le nombre d'instances qui s'en sont mêlées dans cette...
C'est un parcours, juridique complexe, oui.
Et je trouve assez surprenant que les gens ne voient pas quand même l'instance de référence, c'est la Cour de cassation dans cette affaire. C'est la justice, c'est là qu'est le nœud. Et donc,
c'est d'ailleurs là que ça s'est dénoué.
C'est là que ça s'est dénoué. Et je pense qu'une des questions qu'on doit se poser sur ce genre de situation, c'est effectivement, Laurent le dit, bon, mais ça va être clair parce que maintenant il va y avoir une loi, il va y avoir un texte. Je pense quand même qu'il y a toute une organisation juridique qui fait que la clarté vient aussi de la jurisprudence et de la façon dont les juges décident. Et je crois qu'on a un problème en France qui est de ne pas véritablement comprendre le rôle de la jurisprudence, le rôle de la justice judiciaire, le rôle de... Dans cette affaire, le Conseil d'État ne juge pas. Hein, le Conseil d'État n'est pas dans sa formation juge, non, mais dans sa formation conseil.
Voilà. Et donc, c'est une espèce d'étape entre la Cour de casse et le texte examiné lundi.
Voilà. Et donc, quand la Cour de cassation dit quelque chose, je suis toujours très gêné que l'on dise bon, mais maintenant il va falloir faire un texte de loi. La Cour de cassation a dit quelque chose. En fait, la jurisprudence, c'est aussi quelque chose qui nourrit le droit.
Ben oui, mais enfin, sur le plan institutionnel, vous devez modifier les codes du travail.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une tradition en France pour. Je ne vais pas éterniser le débat là-dessus, mais c'est tout le débat entre la common law et la civil law. Je pense que en France, on est très attaché à la civil law et il y a quand même des domaines et des sujets où introduire de la common law, de la justice, de l'arbitrage, c'est quelque chose qui est plus positif que ce que nous racontent nos juristes.
C'est votre côté anglais, ça.
Oui, tout à fait. Je pense qu'une des forces de l'Angleterre, c'est aussi la common law.
Jean-Marc Littori, j'ai mis ce sujet, mais il a retenu votre attention. Les cadres considèrent que le télétravail, c'est un acquis. Moi, c'est un baromètre APEC qui m'a impressionné, parce qu'un sur deux dit, moi, je suis prêt à démissionner si le travail à distance est supprimé dans mon entreprise. C'est un nouveau monde.
C'est un nouveau monde. Premièrement, c'est du déclaratif.
Oui.
Voilà. Donc, moi, je me méfie toujours un peu du déclaratif. Vous avez plein de déclaratifs qui, si ça coûte 10% plus cher et que c'est plus propre, est-ce que vous achetez? Et à 90% des gens disent oui. Et il y a 10% des gens qui le font effectivement. Donc,
c'est comme, j'adore les documentaires sur Arte, mais c'est TF1 qui cartonne.
Voilà, exactement. Donc, bon, c'est du déclaratif. Derrière, on le sait bien, dans les entreprises, il y a eu avec les confinements, une vraie bascule sur cette question du télétravail qui était impossible et qui est devenue soudain, du jour au lendemain, en 24 heures obligatoire. Ouais. Il y a une grande banque qui a la défense, qui avait expliqué que ses traders ne pouvaient pas, pour des raisons réglementaires, travailler hors du floor de la banque. Et le 17 mars, tous les traders étaient chez eux sur leur ordinateur. Voilà, donc on a même eu des choses qui ont changé et cette réaction montre bien ça. Ça montre aussi que au sein des entreprises, c'est un nouveau champ de discussion qui est ouvert et qui n'est pas toujours facile à régler entre certains salariés qui peuvent télétravailler et la direction qui sait qu'il y a d'autres salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ah oui, ça... Et donc il y a un point d'équilibre à trouver. Je pense que ça va être une difficulté pas facile à résoudre et le sondage montre qu'il y a un fort attachement au télétravail, même si quand vous avez des oreilles dans un centre d'entreprise, vous voyez bien que les choses ça a changé très fort en 2020, et puis depuis quelques mois, on entend une petite musique qui est beaucoup moins favorable au télétravail, y compris de la part des salariés qui se disent, si je suis en télétravail, je risque d'échapper aux augmentations.
Oui, je ne vais pas être là au bon moment. Les absents ont toujours tort, comme on dit. Voilà. Ouais, je vous rappelle l'histoire de SAP, qui est extraordinaire. Ils étaient 5-5 en télétravail. Mm. On leur a dit, non, c'est fini, maintenant, vous revenez minimum de jours par semaine, pétition de 1500 salariés menaçant une démission collective. C'est un truc de dingue. Ça vous faisait réagir le cadre, l'acquis télétravail pour les cadres ?
Oui, alors quand on dit l'acquis télétravail, encore une fois, et je veux dire, Jean-Marc fait bien de le souligner, c'est du déclaratif.
Oui, on est d'accord. J'attends de voir s'ils vont vraiment démissionner.
Alors, la petite musique sur le télétravail, je pense que c'est plutôt une symphonie philharmonique. Et là, maintenant, si vous voulez, ça souligne bien les effets de mode qu'il peut y avoir dans le management, et vous l'avez très bien expliqué, je veux dire qu'on a été obligés de tous passer en télétravail. Je veux dire, c'était pas laissé à la libre appréciation des entreprises. Et ça, c'est plutôt globalement pas mal fait. Simplement, on a expliqué, je parle des managers, que c'était une mesure d'urgence face à une situation d'urgence et qu'il ne fallait en aucun cas, puisqu'on parle de fashion, avoir un costume à taille unique pour tout le monde. Bon, et fabriquer un compresseur dans un salon, ça présente quelques challenges.
Là, vous parlez de votre business.
Voilà, là, je parle de mon usine. Bon, donc maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que, je dirais, une fois de plus, je veux dire qu'on épouse le terrain. Vous avez des postes, par exemple, qui sont purement documentaires, si je puis dire, où vous pouvez avoir plus de télétravail. Enfin, je crois que je n'apprends rien à personne.
C'est cohérent.
Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des discussions, je pense, relativement intelligentes dans les entreprises, et je pense que là, il y a une vraie différence entre les petites boîtes, les PME et les grosses boîtes. Parce qu'évidemment, au niveau des PME, c'est quelque chose qu'on pratique depuis toujours, ou en clair, ben, je dirais, on a toujours pratiqué ça. Je veux dire que quand quelqu'un avait un petit problème de famille ou autre, alors ça ne s'appelait pas le télétravail, mais il restait chez lui et il gérait le problème. Le problème intervient quand on essaye, une fois de plus, de légiférer, de mettre de la couche juridique, d'avoir un costume à taille unique pour tout le monde, et c'est là que les problèmes commencent.
On n'a pas légiféré sur le télétravail en France.
Heureusement. Voilà, C'est pour ça que quand on parle de la PEC... Encore une fois, c'est une prise de température.
Oui, c'est une prise de température.
Mais on a également, vous parliez des augmentations de salaire, il y a les entreprises américaines qui ont été les chantres du télétravail ont été les premières à faire marche arrière et à obliger les gens à revenir.
Oui, absolument.
Et certaines ont même dit, attention, si vous faites trop de télétravail, vous n'aurez pas d'avancement et pas d'augmentation de salaire. Bon, je crois que c'est assez clair.
Non, moi
Jean-Marc Daniel.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ces gens.
Avec quels gens qui
considèrent que c'est un acquis et c'est plus qu'un acquis. Je pense que c'est l'annonce, les prémices de la fin du salariat.
Ah, mais ça, c'est votre grand.
Et donc, je pense qu'on est en train de passer de la société employeur-employé à la société client-fournisseur. Et ça, ce sondage confirme ça. C'est du déclaratif. Je suis d'accord avec Jean-Marc. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus de gens qui considèrent que c'est un acquis. Bon, je pense que sur le terrain, concrètement, quand on leur demanda de revenir et d'abord donner la liberté qu'ils ont acquise, ils réagiront de façon vigoureuse.
Je ne suis pas totalement... on a eu ce débat mille fois sur la fin du salariat. Il y a une évolution tout à fait notable, mais alors, je pense que le salariat restera très largement dominant pendant
pour faire des compresseurs, il y a des chaînes de production industrielle qui réclameront une présence physique en des lieux déterminés, mais pas forcément d'ailleurs dans le cadre salarial actuel, mais je pense qu'il y a énormément d'emplois qui vont disparaître des logiques salariales pour entrer dans la logique client-fournisseur.
Laurent Vosquet.
Alors, moi, je vais répondre à ça en tant que manager. Parce que, effectivement, les propos de Jean-Marc, c'est pas du tout une attaque, sont très théoriques et se tiennent. Je vais vous rappeler que, quand même, que Le premier confinement, tout le monde est parti, va en guerre, un petit peu comme en 1914. Tout le monde est parti, c'est formidable, on va avoir du temps pour nous, on va être chez nous, etc. Et puis le deuxième confinement, on nous a demandé de gérer les risques psychosociaux. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient en télétravail et qui étaient trop souvent chez eux, ils commençaient à déprimer. Et moi, j'ai dû gérer beaucoup de cas où il y a des gens qui m'ont clairement expliqué, qui m'ont dit « Bon, moi j'aime bien le télétravail une journée par semaine parce que c'est plus facile pour moi, mais globalement, pas trop, parce que sinon je suis complètement déconnecté de l'entreprise et j'ai une coupure sociale. » Et ça, c'est pas bon.
Donc, non mais le télétravail, pense, c'est pas voilà. Le confinement.
Non.
Vous prenez un exemple extrême. Les 55 jours de confinement, c'était pas télétravail, le maître mot.
Vous avez dit, quand on va retirer à ces gens-là la liberté, ça va pas bien se passer. Oui. Non, je pense qu'une fois de plus, la vie est faite de nuances grises, et que, je dirais, quand ça se fait de manière intelligente et, je dirais, pas systématique, ça se passe bien. Le problème, c'est quand on veut avoir un costume à taille unique. Et moi, je ne crois pas du tout que ça va être la société client-fournisseur. Je n'y crois pas, mais écoutez, dans 30 ans, puisque vous serez encore président, si j'ai bien compris,
on en discutera. La société d'économie politique.
Voilà.
Oui, c'est enfin, elle existera encore, je ne sais pas si je serai président.
Mais si.
Je crains qu'elle soit encore présente, qu'elle existe encore.
On va faire de Jean-Marc Daniel un perpétuel. je suis persuadé que si j'avais un expert très pointu, il me donnerait toutes les bonnes raisons qui ont poussé le Parlement européen à valider quelque chose qui m'échappe. On décide qu'un élevage de porc, pourquoi pas les bovins d'ailleurs ? Je sais pas. Élevage de porc et de volaille, vous êtes une industrie. Vous êtes... Petite ferme familiale, il y a des porcs ou de la volaille, vous êtes maintenant dans la classe industrie. Ça veut dire qu'on vous sort l'ensemble des normes réservées aux industriels que vous n'aviez pas à respecter, que vous allez devoir respecter maintenant et ça va coûter de l'argent. J'ai mis ça, ça vous a fait réagir, Laurent Wronski, parce que je vois dans ce genre de décision exactement les décisions qui font qu'on déteste les Européens. Enfin, qu'on déteste Bruxelles, plutôt.
Alors, je vais vous dire, c'est clairement un sujet qui m'a mis d'extrêmement mauvaise humeur. Je trouve que c'est, si vous voulez, vous vous dites, mais c'est pas possible. Ils ont pas compris ce qui s'est passé depuis 2 mois. De pondre des trucs pareils. Je veux dire, là, on parle agriculture, mais c'est valable dans tous les secteurs. Donc là, on a des gens qui apparemment sont hors sol, qui vont nous sortir des trucs, qui vont être d'une difficulté herculéenne à mettre en place.
Non mais ça coûte de l'argent en plus.
Qui vont en plus, si vous voulez, il va y avoir un coût de la casse sociale économique, c'est une évidence. Et en plus, et je trouve que c'est beaucoup plus grave, c'est que ça renforce, si vous voulez, ce sentiment anti-Europe. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de fédérer et de vendre l'Europe, si je puis dire, et de donner un sentiment de ralliement et de trouver des choses intelligentes qui nous rendent tous plus forts, non, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu ? On a quand même eu, il y a quelques semaines encore, je veux dire, les tracteurs qui étaient un peu partout en Europe. Et là, on nous sort un truc pareil. Donc, vous vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire que si la bêtise n'est pas remboursée par la Sécu, il y en a qui vont finir sur la paille. Et là, c'est l'histoire des agriculteurs. Mais moi, je me dis, mais alors, la semaine prochaine, il y en a un qui va nous sortir des normes sur les compresseurs et sur l'air comprimé. Je veux dire, on est dans un climat général, macroéconomique, au niveau du libre-échange, où on a des concurrents redoutables, je veux dire, qui ne font que monter en gamme, monter en puissance de semaine en semaine en semaine en semaine. Et tout ce qu'on trouve, c'est nous sortir des trucs pareils.
Tu dois être ravi, mais ça vous inspire une réaction, non ? Non, comment vous voulez apprécier Bruxelles quand vous voyez ce genre de...
Bah voilà. Moi, je pense que
c'est
plus un affrontement entre une certaine forme d'écologisme que j'appelle les pagano-gauchistes et le reste de la société. Et Bruxelles, effectivement, soutient plutôt une vision assez intellectuelle de l'écologie qui se rapproche des pagano-gauchistes. Mais je pense que c'est pas contre Bruxelles en tant que telle. Quand vous regardez les dernières élections, que ce soit au Portugal, que ce soit aux Pays-Bas, ces élections, les gens qui ont fait une percée n'ont pas attaqué directement Bruxelles. Ils attaquaient l'idéologie écologiste. Et je pense que nous allons vers un clivage politique qui sera autour de la façon dont se comportent certains mouvements d'écologie et qui décrédibilise la cause qu'ils mettent en avant et qu'ils défendent. Mmh. Et on parle des agriculteurs, la révolte des agriculteurs, si tant est qu'on puisse parler de révolte, enfin, le mouvement de colère des agriculteurs, il y avait toute une partie qui était effectivement sur les prix, la rémunération, mais l'essentiel, c'était effectivement contre une certaine vision de l'écologie et contre le fait que les gens qui s'adressaient à eux avaient un contact purement, alors là aussi, intellectuel et théorique à la nature, alors que eux, la nature, ils la vivaient.
Ah bah, ils sont dedans, oui.
Et je pense qu'il y a un problème de... C'est ce que nous disait aussi Marcus Kerber l'autre jour sur ce plateau, quand il disait que le problème...
Il a dézingué les écologistes. Il considère que le problème de l'Allemagne, c'est les écologistes.
C'est les écologistes. Et quand on
il
regarde...
explique tout par l'école.
Quand on regarde le programme de l'AFD qui a commencé, l'AFD, ça a commencé par être contre l'euro. Puis ensuite, ça a été contre l'immigration. Et maintenant, typiquement, Marcus Kerber reportait plus ou moins ça dans ses propos. Ils sont contre les écologistes. Et donc, je crois qu'il y a un vrai problème politique, bah oui, qui est de la capacité d'un certain nombre de mouvements à faire passer leur message et à éviter de décrédibiliser ce message.
C'était le jour où on passe les 72 000 dollars et vous écrivez Bitcoin, Dingo ou Bingo en débutant la chronique dans les pages Opinion des Échos. Point d'interrogation. Alors, dans quel camp êtes-vous, Jean-Marc Vittori?
Moi, je ne suis pas dans un camp dans cette histoire. Je regarde, j'observe et j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre et c'est un peu compliqué. Le Bitcoin, donc, c'est une crypto-monnaie ou un crypto-actif qui a été créé juste après la faillite de Lehman Brothers, la panique financière et l'ouverture 2009. En grand des robinets financiers par les banques centrales. Et donc, je me suis demandé, premièrement, à quoi ça servait. Ça a été présenté au départ comme un outil de transaction. Hein. Quand vous regardez le texte fondateur du Bitcoin, qui a été publié, je crois, le 30 octobre 2008, c'est présenté comme un système de transaction. Et on voit bien que cette dimension-là, bah, ça marche pas. Vous n'allez pas acheter la baguette avec une fraction de Bitcoin parce que c'est trop compliqué. Le système est lourd, il est complexe, il est pas rapide, contrairement à ce que racontent certains. Et donc, cette dimension transaction, ça ne marche pas. Une monnaie, ça sert d'instrument de transaction, ça sert aussi d'étalon, de mesure de la valeur. Hein. C'est ce que nous disent tous les théoriciens de la monnaie.
Est-ce trois fonctions de la monnaie, il y a
Est-ce qu'on mesure la valeur avec le Bitcoin? La réponse est clairement non. Il est beaucoup trop volatile pour ça. S'il était au cœur du système, à ce moment-là, il pourrait servir d'étalon, mais pour l'instant, on voit bien qu'il ne sert absolument pas d'étalon.
À la base du dollar qui permet de fixer la valeur du pétrole, par exemple.
Et puis l'euro, même le yuan, mais on ne fixe pas la valeur du pétrole, d'autres matières premières, on ne les négocie pas en bitcoin parce que c'est trop compliqué.
Donc échange, non. Voilà. Mesure,
étalon, non. Et donc la troisième fonction d'une monnaie, c'est la réserve. Ouais. Et là, on voit bien que le bitcoin sert à ça. Clairement, il devient une classe d'actifs, entre guillemets. Alors ensuite, quand on regarde les actifs, la plupart des actifs, ils rapportent quelque chose. Hein, les actions, ça rapporte des dividendes, sans parler de la promesse de plus-value. Les obligations, ça rapporte des intérêts. D'ailleurs, une obligation, c'est l'obligation de verser un taux d'intérêt. Le Bitcoin, ça rapporte rien. Alors vous allez me dire, il y a l'or qui rapporte quelque chose et qui est considéré comme une classe d'actifs.
Avec
qui rapporte rien, l'or. Oui.
Il rapporte rien, mais il a une utilité. Une utilité, on s'en sert. Il y a des gens qui ont des dents en or. Il y a plein de puces qui ont des contacteurs en or. Sur le dôme des Invalides, c'est recouvert en or parce que ça présente certaines qualités esthétiques et aussi de protection que n'ont pas les autres métaux. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, l'or a des vertus physiques. On peut pas se faire une dent en Bitcoin. On peut pas recouvrir le dôme des Invalides en Bitcoin. Donc, il ne sert à rien hormis dans la finance. Elle-même, hein, il peut servir à faire des transactions, notamment l'usage le plus souvent cité, c'est de faire des transactions entre pays, hein, notamment pour les remittances, les envois des immigrés à leur famille dans leur pays d'origine sont taxés par les institutions financières qui s'en occupent à 4 ou 5 %. C'est régulièrement dénoncé, y compris dans les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Là, ça permet de le faire sans frais. Sans frais prélevés par une institution financière. Donc, c'est une désintermédiation de la monnaie. Bon, mais c'est même des niches à chaque fois. Donc, pourquoi est-ce que le Bitcoin a valu 72 000 dollars? Et je pense qu'il y a même quelque chose derrière. Le Bitcoin est une monnaie qui est totalement décentralisée, contrairement aux monnaies qui sont devenues de plus décentralisées au fil des siècles, hein, en particulier depuis 3 siècles. Il n'y a pas d'institution publique derrière, contrairement aux autres monnaies. Et je pense que l'une des raisons, peut-être la raison pour laquelle le Bitcoin vaut si cher, c'est... Alors bon, il y a évidemment de la spéculation, il y a des gens qui se racontent que ça va monter. Il y a tous les signes habituels là-dessus. Mais je pense aussi que derrière, il y a le fait de se dire, dans le reste du système, ça va pas. ces dettes qui sont de plus en plus colossales, qui sont financées par de la monnaie, à un moment, cette monnaie, elle va ne plus rien valoir.
Perte de confiance dans les monnaies traditionnelles.
Et donc, je m'interroge depuis des années, face à ces politiques très, très particulières que mènent les banques centrales, depuis 15 ans, c'est quelle forme pourrait avoir une fuite devant la monnaie au 21e siècle ? De la monnaie, c'est on veut plus de la monnaie.
Oui, bien sûr. Hein, on a du mal à imaginer.
On veut de l'or, on veut de l'argent, on veut des objets, on veut plus de monnaie.
Je comprends.
Et je pense que le Bitcoin, c'est un signe parmi d'autres, mais un signe de la fuite devant la monnaie.
C'est un élément un peu dans la philosophie de départ un peu libertarienne qu'on retrouve dans ce que vous dites là. Est-ce qu'un jour on fuira devant le dollar et l'euro?
Je pense que le Bitcoin, c'est un clignotant.
Oui, Laurent, on a 1:20.
Alors, je trouve que c'est une lecture intéressante, celle de Jean-Marc. Par contre, il ne faut pas oublier que la monnaie, c'est une convention. Si on est tous d'accord que des coquillages qu'on va s'échanger, nous permettent d'échanger contre d'autres biens, ça devient une monnaie. Donc, est-ce qu'il faut voir là le signe de défiance des monnaies actuelles qui sont backées par les États? Je ne sais pas. Par contre, évidemment, même ces monnaies-là, on ne peut pas prendre son bout de papier d'euro et puis l'échanger comme à une époque contre de l'or ou quelque chose de dur. C'est une convention générale. Et donc, par rapport à la question que vous posez, si demain il y a une défiance par rapport à la monnaie, c'est le retour du troc, qui est la plus vieille forme d'échange commercial. Et on va échanger des biens physiques contre des biens physiques. Je pense qu'effectivement, c'est le risque que l'on court avec, je dirais, des déficits excessifs et tout ce dont on débat depuis un petit moment.
Pour les compresseurs, ça va pas être facile d'échanger un compresseur.
On a fini.
On va échanger les compresseurs contre
Jean-Marc, oui, un mot.
Je partage tout à fait l'analyse de Jean-Marc. Je rajouterai deux choses. La première, c'est que je pense que la faillite des banques centrales, c'est d'afficher la destruction progressive de la monnaie en disant, notre plafond, notre objectif, c'est 2% d'inflation. 2% d'inflation, c'est la destruction de la monnaie. De dire, on a besoin de... Non seulement c'est un plafond, mais c'est une nécessité. Il faut détruire la monnaie pour faire vivre l'économie.
C'est un super débat, mais j'ai fini là.
Ça me paraît absurde. Et la deuxième remarque que je ferai, dans l'arbitrage entre défiance de la monnaie et spéculation, je pense qu'on est surtout dans la spéculation.
Il me fait le débat pour savoir si un peu d'inflation est bonne pour l'économie, alors qu'il nous reste 15 secondes. Moi j'adore.
Je ne sais pas si c'est bon pour l'économie et tout ça. Je dis que des gens qui sont là pour préserver la monnaie affichent qu'ils vont la détruire.
La productivité, comment fait-on? C'est la une de Pôle Écho du mois de mars. Merci Jean-Marc Daniel, Jean-Marc Vittori, Laurent Vronsky. Rendez-vous lundi 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.